l'ours et la carotte. Une émission d'environnement proposée par Nicolas Saint-Martin et Claire Queyrouga. Victoire Guillonot, bonjour.
Bonjour.
Tu travailles dans une association internationale 350.org. D'où vient ce nom étrange ?
Alors, le nom 350.org vient de 350 particules par million de CO2, qui est un seuil stable pour la concentration dans l'atmosphère. Alors aujourd'hui, on vient de dépasser le record de 416 particules par million. Et il faut savoir que 350 particules par million, on l'a dépassé en 1987. Donc souvent, on parle des générations futures, mais en fait, moi, je suis née en 1987. Et ce chiffre nous fait nous rendre compte que, par exemple, je suis déjà les générations futures parce que je suis née à un moment où on a déjà basculé dans une concentration de particules par million qui n'était plus stable pour l'atmosphère.
Tu travailles spécifiquement sur limiter les nouveaux projets fossiles, le développement des projets fossiles, surtout, on va dire, à l'international, mais il y en a bien sûr en Europe et en France.
Oui, alors en France, avec le développement si intense du nucléaire, il y a peu de projets fossiles sur lesquels lutter. Et ça va se passer par exemple en Allemagne, il y a des luttes très fortes sur le charbon, en Angleterre sur la fracturation hydraulique. En France, nous, on va se focaliser surtout sur les financements publics, les investissements publics dans les énergies fossiles. Et là, la France est vraiment la championne, que ce soit l'investissement public ou privé, pour aller inonder le monde entier d'investissements dans des produits, des projets d'industrie fossile qui sont du charbon à travers le monde. Tout ce qu'on ne fait plus en France, on continue à le financer partout dans le monde.
Voilà, alors si tu veux, on va partir de la France et on va aller jusqu'à l'international pour parler de tout ça, parce qu'au final, effectivement, si en France, les projets de mines, comme il peut y en avoir vers Nevers, une des plus grandes mines de charbon qui pourrait voir le jour parce qu'on sait qu'il y a un gisement, tout ça est très, très... Enfin, très inquiétant parce que, étant donné les coûts d'extraction qui deviennent de plus en plus chers, les projets qu'on a abandonnés pourraient ressurgir. Donc, chez nous, hein. Mais en attendant, la France, qui n'a pas de gros projets d'extraction fossile sur son territoire, le fait de façon outrageuse, parce qu'au final, on ne le fait pas chez nous, mais on le fait chez les autres.
Oui, prenons l'exemple de Total. Total est sur, dès qu'il y a un projet d'extraction vraiment sale, n'importe où sur la planète, Total est sur le pont pour s'insérer dans le projet. Par exemple, chez nous, on a par une loi, on a décidé de ne pas commencer l'exploration et l'exploitation de la fracturation hydraulique, mais ça n'a pas empêché Total de gagner des marchés aux États-Unis et même en Algérie, tout près du territoire hexagonal. Si Total peut le faire, Total le fait. Il y a aussi, Total a des projets d'exploration dans l'Arctique. Et en fait, si vous allez sur le compte Twitter de l'entreprise, chaque semaine, il y a l'annonce d'un nouveau projet d'exploration quelque part dans le monde de la part de Total. Donc, ça n'arrête pas et c'est aussi dû au soutien public et privé par des investissements que reçoit l'entreprise.
Voilà. Alors du coup, les investissements privés, on pourrait dire, bon, il y a des investisseurs privés qui veulent faire des bénéfices en polluant la planète. Il n'y a rien de neuf. Hein. Surtout, voilà, Total, c'est son boulot un peu de faire ça. Mais quand on voit des financements publics, là, c'est autre chose. Alors vous, du coup, à 350.org, vous alertez nos femmes et hommes politiques pour qu'ils arrêtent de financer tous ces projets d'extraction fossile.
Voilà, les alertés, ils savent très bien qu'ils le font. Ce qu'on fait, c'est qu'on organise des mobilisations pour justement leur mettre la pression pour qu'ils prennent les décisions qui sont urgentes pour notre climat. Alors, par exemple, quelques chiffres. La Banque européenne d'investissement en Europe a créé des prêts à l'investissement à hauteur de 7,9 milliards d'euros sur la période 2015-2018. Et la Caisse des dépôts et consignations, pour être plus près de chez nous, C'est une institution qui investit l'argent des retraites, l'argent des retraites de la fonction publique, l'argent de notre livret développement durable, qui a bien choisi son nom, et notre livret A, dans l'industrie fossile. Nous n'avons pas les chiffres exacts parce que c'est une institution très opaque qui a 1250 filiales qui elles-mêmes réinvestissent ensuite de l'argent. Mais nous avons repéré des sommes par-ci par-là qui allaient directement à l'industrie fossile.
Oui, alors là, c'est carrément une sorte de travail d'investigation qui est mené par les ONG avec une opacité incroyable. Ce sont des financements publics. C'est notre argent qui est investi et qui donc doit certainement de temps en temps être bien investi dans la transition énergétique, mais pas forcément toujours bien. Et du coup, on ne peut même pas les vérifier. Il n'y a pas moyen, il n'y a pas un mécanisme juridique pour avoir recours à ces données-là.
Alors, il n'y a pas d'obligation particulière de transparence. Surtout, comme je vous l'ai dit, le fait de passer par des filiales, ça rend la recherche beaucoup plus compliquée parce que ensuite, c'est difficile d'aller demander à 1250 filiales une transparence sur les données. Donc malheureusement, en fait, ce système est bien rodé, il y a peu de transparence. Mais au-delà de ça, peut-être c'était une stratégie, en fait, depuis longtemps, de déjà demander la transparence. Mais maintenant, face à l'urgence climatique, au-delà de demander transparence, nous avons vu qu'il y a des fonds investis dans l'industrie fossile. Nous souhaitons savoir combien, mais nous souhaitons que cela cesse, en fait. Donc, nous n'allons pas mettre toute notre énergie juste pour demander la transparence, nous demandons aussi des investissements.
D'accord. Et alors, vous, c'est 350.org, plus un collectif peut-être ?
Alors, plus les personnes qui se mobilisent avec nous dans le mouvement Zéro Fossile, ça peut être des personnes dans les universités, ça peut être des personnes comme le collectif Sciences Po Zéro Fossile, parce que l'école de Sciences Po à Paris a un partenariat avec Total, ça peut être voilà, des collectifs locaux et bien sûr des associations avec des partenariats avec d'autres associations, d'autres collectifs en fonction des campagnes et de l'actualité.
Aujourd'hui, 350.org, c'est une organisation au niveau international avec des homologues en fait, chargés de projets, chargés de missions, enfin, dans de nombreux pays. Vous êtes combien ?
Alors, nous sommes 200 salariés et nous sommes présents dans 180 pays du monde. Ça ne veut pas dire que nous avons des salariés dans 180 pays du monde, mais c'est-à-dire que nous touchons des personnes à travers nos listes d'envoi de mails dans 180 pays du monde. Nous avons vraiment une équipe de traduction très très à la pointe qui traduit vraiment dans plusieurs langues nos communications. Et voilà, nous sommes ce réseau mondial, à la fois mondial et à la fois local, avec tous les groupes locaux partout dans le monde qui se mobilisent pour le climat.
Alors, donc on vient de parler un peu de finalement la responsabilité de nos financements dans l'extraction des fossiles à travers le monde, la responsabilité de la France et de l'Europe. Mais il y a aussi donc de nouveaux projets fossiles sur lesquels vous travaillez. Tu peux nous expliquer comment vous essayez d'éviter ces projets climaticides ?
Alors, une manière d'éviter les projets climaticides, c'est de rencontrer, de travailler, de collaborer, de s'inspirer des personnes qui vont être sur le passage ou dont les communautés vont être impactées, délogées, menacées par l'instauration de ces nouveaux projets fossiles. Il faut savoir que, par exemple, au Brésil, nos collègues peuvent souffrir de menaces face justement à l'industrie fossile qui est toute puissante. Et ce que font nos collègues brésiliens, c'est aller dans les communautés autochtones pour justement travailler main dans la main à l'expulsion de tels projets.
Tu peux nous donner des exemples peut-être de projets que vous avez réussi à éviter dans le meilleur des cas ou en tout cas de projets en cours ?
Alors, donner des exemples de projets que nous avons réussi à expulser, ce serait mentir de commencer la phrase par nous, parce que 350.org est vraiment une organisation et un mouvement qui se souhaite être en soutien aux luttes locales qui souhaitent expulser ces nouveaux projets d'industrie fossile. Donc c'est toujours des collaborations et c'est surtout les populations locales qui ont pu justement expulser ces projets. Alors les derniers projets en date, on a par exemple aux États-Unis, vous avez peut-être suivi le New Dakota Access Pipeline, il y avait juste avant Keystone XL, tous les pipelines en fait sont de plus en plus menacés par les mobilisations citoyennes, surtout lorsque ces pipelines passent par des communautés autochtones sur le continent nord-américain.
Donc là, c'est du pétrole ?
Là, c'est oui, du pétrole, du sable bitumineux. Et plus près de chez nous, il y a eu le projet de construction d'un pipeline de gaz qui s'appelle Midcat ou Step selon le côté espagnol ou français. Et ça, c'est un projet qui a été stoppé avant la construction du côté français par le début de mobilisation des citoyens et aussi par l'imbroglio à Bruxelles qui a fait que ce projet, pour l'instant, n'est pas rentable.
Tout ça, ça va aussi donc vers des actions pour développer les énergies renouvelables. Alors, à 350.org, vous ne travaillez pas directement sur ça, mais il y a tout un mouvement autour de vous.
En France, nous ne travaillons pas directement là-dessus, nous travaillons plus sur l'arrêt des financements de l'industrie fossile, mais il y a des collectifs, des associations comme Enercop et Énergie Partagée qui agrègent des mouvements citoyens pour justement développer une énergie renouvelable juste pour tous et tous. Et nous avons des collègues dans d'autres pays dont la stratégie est de développer justement les projets d'énergie renouvelable. Nos collègues ukrainiens se focalisent sur les villes 100% renouvelables avec de plus en plus de mairies qui décident de passer au 100% renouvelable.
Alors c'est-à-dire surtout le solaire en ville ?
Oui, le solaire en ville, c'est aussi des engagements de. C'est une manière en fait détournée d'aussi d'arrêter l'industrie fossile sans la nommer directement lorsqu'on est dans une zone de la planète où avoir pour ennemi l'industrie fossile comme ennemi direct est une façon de se faire sérieusement menacer. Et donc, c'est une manière de développer les projets à la place des projets néfastes.
Alors donc bien sûr, une des alternatives aux énergies fossiles, ce sont les énergies renouvelables, mais il y a aussi la question de l'électricité, d'où elle vient. Quels sont vos liens avec les réseaux antinucléaires ? Parce que notamment en Allemagne, on le sait bien, pourquoi il y a des nouvelles mines de charbon qui se développent ? Bah, c'est parce qu'il n'y a plus de centrales nucléaires, elles ferment. Et nous, si c'était le cas, si on devait perdre nos centrales nucléaires, qu'est-ce qui se passerait ? Notamment et ça, c'est encore peut-être une autre question, du fait du développement des transports, non plus par les hydrocarbures, mais à l'électricité. Il faut bien la produire, cette électricité. Alors, quelle est votre position par rapport au nucléaire et à la voiture électrique ?
Oui. Alors, sur le nucléaire, sur ce qui s'est passé en Allemagne, ça a été prouvé par la suite que c'était un raccourci de faire le lien entre la fermeture des centrales nucléaires et l'augmentation du charbon. Il y a eu en parallèle une augmentation bien plus nette des énergies renouvelables en Allemagne. Et donc, si vous interrogez des associations beaucoup plus spécialisées dans le nucléaire que nous, les études qui ont été menées depuis la sortie du nucléaire de l'Allemagne prouvent qu'il n'y a pas eu un transvasement direct du nucléaire au charbon pour l'indépendance énergétique. La question était plus compliquée que ça et le raccourci a bien, bien servi en France pour justement justifier de ne pas sortir du nucléaire. Et bien notre position sur le nucléaire est tout à fait de nous dire que le nucléaire représente d'autres mais similaires risques que l'industrie fossile. C'est aussi une industrie qui joue de son opacité, qui joue de ses réseaux d'influence et qui ne se maintient que grâce aux subventions et à l'injection d'argent en investissement. Donc il y a vraiment les mêmes thématiques qui bloquent une transition vers des énergies renouvelables. Alors, qu'est-ce que ça donnerait des énergies renouvelables ? Eh bien, si nous avions des vrais financements massifs et ambitieux dans les énergies renouvelables, nous pourrions justement assister à cette société de la transition qu'on a du mal encore à imaginer, parce que tout fait pour que le système, à la fois que ce soit le nucléaire ou l'industrie fossile, se maintienne à flot.
Sauf des mouchards et des gendarmes, on ne voit plus par les chemins que des vieillards tristes en larmes, des veuves et des orphelins. Paname suinte, la misère, les heureux même sont tremblants. La mode est au conseil de guerre et les pavés sont tous sanglants. Oui mais avant le temps, le manche et mou les jours finiront. Les journaux de l'ex-préfecture, les flibustiers, les gens tarés, les parvenus par aventure, les complaisants, les décorés, champs de boursiers, de coins de rue, amants de filles au rebut, grouillent comme un tas de verrues sur les cadavres des vaincus. Oui mais ça rend le temps. Côté de sa fille, l'enfant dans les bras du vieillard. Les châtiments du drapeau rouge sont remplacés par la terreur de tous les chenapans de bouche, valets de rois et d'empereurs. Oui, mais ça rend le temps, le manche des mauvais jours finiront.
La voiture électrique ?
Alors la voiture électrique, sur cette question, moi je n'aurais pas d'opinion particulière. C'est bien sûr...
Pourtant ça limiterait la consommation d'hydrocarbures.
Je pensais que vous cherchiez peut-être une question plus de controverse.
Ah bah oui, carrément.
Mais bien sûr que le développement de la voiture électrique est est à encourager. Et à la fois, c'est ce qui va peut-être nous amener sur les questions de justice climatique, c'est-à-dire que l'accès à la voiture, c'est aussi une question d'accès à certaines ressources. Aujourd'hui, quand on est dans la fermeture des petites lignes de train, quand on est dans le développement du tout voiture, il nous paraît beaucoup plus intéressant de développer de manière plus intense les transports en commun, la gratuité des transports en commun, pour que justement nous puissions nous déplacer sans que ce soit un enjeu de classe et de richesse.
Tout à fait, parce que c'est vrai que la voiture électrique, alors vous êtes plutôt pour à 350.org, mais ça fait quand même relativement consensus. Ce serait une des solutions à l'augmentation du prix du carburant. Donc ça peut être avancé comme quelque chose de démocratique, enfin, de dire laissons l'accès dans nos pays riches à la voiture pour tous. Mais ça pose d'autres problèmes écologiques sur la question des batteries et sur la production d'électricité d'origine nucléaire, principalement aujourd'hui en France.
C'est pour ça qu'on dit transition vers les énergies renouvelables juste pour toutes et tous, parce que même aussi dans les panneaux solaires, on peut avoir des composants rares qui vont être pris dans des terres rares en Chine, qui vont déloger des communautés autochtones. Donc bien sûr que à la fois il faut vraiment enclencher massivement cette transition énergétique et la faire bien. C'est pour ça que nous soutenons avant tout les projets d'énergie renouvelable citoyens.
Alors la justice climatique, donc vous l'avez un peu abordé, c'est bien sûr une question qui transcende tout ça, c'est reconsidérer les inégalités au niveau mondial pour mieux lutter contre. Comment ça se traduit, vous, à 350.org, dans vos actions?
Alors si on parle de justice climatique, on l'entend comme en fait une obligation morale de lutter pour mitiger les impacts du changement climatique sur les populations qui sont les premières affectées. Et alors les premières affectées, par exemple, nous avons une équipe basée dans les îles du Pacifique qui font vraiment un travail merveilleux pour lutter contre le réchauffement climatique. Ça, c'est un point, mais lutter en fait pour les premiers impactés, c'est aussi se rendre compte que les premiers impactés sont au croisement aujourd'hui d'autres oppressions qui les impactent déjà. Par exemple, pour expliquer cet aspect, quand on regarde nos grandes villes aujourd'hui, les quartiers riches sont des quartiers qui sont plus boisés, où il y a plus d'espace et plus d'espace vert. Les quartiers pauvres ont beaucoup moins d'espace vert, et ce sont dans ces quartiers où il y a vraiment des politiques de coupe d'arbres de plus en plus pour y faire des projets de construction d'infrastructures. Eh bien, dans les périodes de canicule, on voit clairement, si on fait une carte avec la température, on voit clairement des différences de quelques degrés entre des zones qui ont gardé de la végétation et des zones qui n'en ont plus et qui ne peuvent pas la nuit se refroidir. Donc il y a vraiment il commence déjà à y avoir, c'est ça qu'il faut se dire en fait, c'est que ce n'est pas dans le futur. Dans les périodes de canicule, on l'a déjà observé, il y a déjà une différence entre les personnes qui en France ont accès à de la végétation et les personnes qui n'en ont pas accès dans les villes.
Donc sur l'actualité, si on est intéressé à lutter avec vous contre les énergies fossiles, il y a un grand événement à la rentrée au mois de septembre.
Oui, c'est la grève mondiale des jeunes. C'est mondial, ça va vraiment se passer tous les quatre coins de la planète, avec les jeunes qui se mobilisent. Là, nous célébrons les un an de la première grève du vendredi de Greta Thunberg. Et ce mouvement, on l'a tous et toutes vu, a pris une ampleur phénoménale. Donc vraiment, cette journée mobilisation va être mondiale, et nous appelons les adultes à venir faire la grève aussi. C'est-à-dire que c'est une manière de soutenir les jeunes qui font la grève et de montrer que nous sommes toutes et toutes affectées et toutes et toutes conscientes et toutes mobilisées pour la cause climatique.
Alors du coup, pour les personnes qui sont syndiquées, il faut commencer à mobiliser les syndicats le plus vite possible, non ? Parce que pour le 20 septembre...
Oui, les syndicats sont mobilisés. La CGT a annoncé qu'elle soutenait la grève mondiale donc en France du 20 septembre. Il y aura aussi une journée de mobilisation le 21 septembre. Donc ça va être deux journées de mobilisation l'une à la suite des autres. Et les syndicats sont déjà sur le pont à discuter de la manière dont ils pourront le plus possible soutenir, encourager, déposer des préavis pour cette journée mondiale.
Et pour suivre, le 22 septembre, c'est la journée européenne des transports. Et là, il y aura beaucoup aussi d'événements autour de la mobilité active, non polluante.
Et je rajouterai le 24 septembre, la journée de mobilisation sur les retraites, qui est aussi un enjeu qu'on ne peut pas... enfin, justice climatique, justice sociale, les deux vont de pair, et ça va être aussi une grosse journée de mobilisation.
Bon, alors la rentrée va être serrée.
Tout à fait.
Merci Victoire Guillonneau. Donc 350.org, on peut retrouver plein d'infos, des pétitions peut-être aussi pour vous soutenir.
Oui, alors vous pouvez aller sur france.zerofossile.org. C'est plutôt le site où nous vous proposons toutes les mobilisations. Vous pouvez rejoindre un groupe local, vous pouvez en créer un. Et alors ce qui va se passer tout prochainement, c'est que la Banque européenne d'investissement a fait une proposition qui est d'arrêter tous ses prêts à l'industrie fossile. C'est une nouvelle, mais gigantesque, qui pourrait vraiment avoir une grosse influence sur le financement de l'industrie fossile et sur la confiance que donnent les institutions publiques à l'industrie fossile. Mais les ministres de l'Union européenne doivent valider cette proposition et ce n'est pas gagné. Donc on va avec vous mettre la pression sur les ministres de l'économie et des finances des pays de l'Union européenne pour justement adopter cette proposition de la Banque européenne d'investissement.
Donc on retrouve ça, tout ça, tu peux répéter le site internet ?
France.zerofossile.org.
Merci.
Merci beaucoup.
Sur la table.
C'était l'ours et la carotte. Écoutable sur Internet. That's the remember.